Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
D'examiner les préoccupations liées à la mise à jour du fichier électoral. Nous aborderons le sujet puisque le sujet nous intéresse, nous l'aborderons dans cette émission et nous parlerons certainement d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués à l'opargne des journaux parus dans les kiosques ce matin. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 1er avril 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'Ativia sur la mise en onde. Jérôme Dacoutia était la mise en ligne. Je suis Pascal Osso au micro. Merci fraternel à vous tous, alors qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga, près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Merci aussi à vous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre, vous le savez très bien, sur nos médias ou nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. L'équipe de mardi se met déjà en place. Eric Pakoudou-Josson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers confrères, chers invités, bonjour. Chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Tout va bien, merci par la grâce de Dieu.
Merci et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir accepté notre invitation. Autre confrère qui a accepté notre invitation ce matin, c'est bien Jean-Baptiste Atisso. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Pascal.
Bonjour. J'espère que vous allez bien.
Ah, nous rendons grâce.
Dieu merci.
Tu es au contrôle.
C'est l'essentiel. Dieu est au contrôle. Vous êtes directeur de publication du journal Écho du Monde et aussi du site d'information Corps Diplomatique News.tg. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est avec plaisir.
C'est avec plaisir et c'est avec autant de plaisir que nous vous accueillons aussi dans cette émission Club de la Presse. Et vous le savez très bien aujourd'hui, Claude Assiobotis ne sera pas avec nous parce que le principe de notre chronique, vous le savez très bien, après avoir fait deux chroniques ou peut-être fait une chronique alors sur un ouvrage donné, nous invitons l'auteur ou l'écrivain en studio avec nous. Et donc, vous le savez, nous sommes en train de parler depuis un temps de la folie de Salomé. Celui qui a écrit cet ouvrage est avec nous. C'est bien Sekou Kanjagabalo. Sekou, bonjour.
Bonjour, monsieur Lossou.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je rends grâce à Dieu. Je suis en bonne santé.
C'est l'essentiel.
Merci.
Et il faut rendre toujours grâce à Dieu.
Oui, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Parce que la vie, c'est un don.
Tout à fait. Oui. La vie, c'est un don. Et donc, tel que je le disais, je ne sais pas si, déjà avec les deux chroniques que nous avons faites sur votre ouvrage, La folie de Salomé, vous l'avez suivi.
Malheureusement, je n'ai pas pu le suivre.
Dommage. D'accord, dommage. C'est vrai que vous pouvez avoir le temps nécessaire également de le suivre, puisque notre émission est sur YouTube. Vous pouvez suivre cette émission. Alors, nous vous recevons aujourd'hui alors sur ces chroniques que nous avions eu à animer avec notre chroniqueur, Claude Assiobotis. Alors, vous êtes un écrivain togolais dont nous connaissons deux œuvres. Un roman, Le Tigita à l'heure du père Arto, publié aux éditions Audi, sur lequel nous reviendrons plus tard, hein, sur l'itinéraire de nos chroniques littéraires. Une pièce de théâtre, c'est bien La folie de Salomé, publiée aux mêmes éditions à laquelle nous venons de consacrer justement deux chroniques. Alors, notre chroniqueur Claude Assiobotis nous a signifié que cette pièce n'est qu'une réponse à une autre bien connue, écrite par votre confrère Kanye Alem, intitulée « Chemin de croix ». Votre pièce est publiée pour donner une vue équilibrée sur un pan de notre politique nationale, l'affrontement des élites pour la démocratisation de notre pays. Alors, c'est cool. Qu'est-ce que vous pensez alors de tout cela?
Merci bien, monsieur Lossou. Je suis très heureux d'être à ce micro, même si je n'ai pas écouté Assiobotis, je sais de quoi il parle. Parce que, dites-vous bien qu'il y a déjà, je crois, 2 ans ou 2 ans et demi, il en avait déjà parlé lors d'un colloque organisé à l'Université de Lomé sur la littérature togolaise. Et je n'avais pas été invité au colloque. Mais par la suite, les actes du colloque ayant été publiés, j'ai pris connaissance de ce qu'il a dit. Bon, c'était une co-communication avec M. Jean-Paul Akako. Et la partie me concernant dans leur communication parlait de pastiche. Pastiche de chemin de croix. Même s'ils ont eu la stratégique idée de mettre un point d'interrogation pour ne pas affirmer la chose. C'est pourquoi je... dis Dieu merci pour cette émission qui me permet, même si le temps ne sera pas suffisant, qui me permet quand même de faire une petite mise au point par rapport à ce qui a été affirmé sur cette pièce, La folie de Salomé, parce que c'est un peu dommage que Assiobotis, que je connais bien, Jean-Paul Akako, que je connais bien, pour écrire et publier un article sur ma personne, sur mon œuvre, n'ont pas essayé de m'aborder. C'est vraiment dommage, parce qu'en littérature, la contemporanéité est une chance. Et il aurait été heureux qu'ils viennent à moi pour comprendre pourquoi il y aurait des ressemblances entre La folie de Salomé et Chemin de croix.
D'accord.
Alors, permettez-moi au début de remercier, de féliciter beaucoup les éditions Aoudi, notamment son DG, M. Eka, parce qu'en 15 ans d'existence, il a permis à la littérature togolaise de s'exprimer. Et beaucoup de talents aujourd'hui ont émergé grâce à son effort et à d'autres qui ont suivi son pas. Je veux remercier aussi un jeune écrivain, critique littéraire, universitaire, à savoir Anassa Takora, parce qu'il était lecteur à Aoudi, et c'est lui qui m'a dit « Ah, est-ce que vous avez un texte ? On a entendu parler de vous. Est-ce que vous avez un texte à nous proposer ?» C'est comme ça que « La folie de Salomé » a été publiée, audition Aoudi, 20 ans après avoir été écrite.
20 ans ?
20 ans après avoir
été écrite. 2 décennies.
Voilà, 2 décennies. Tout comme le Tchikida du père Arthur dont vous parlez, qui a été publié également en 2015, 20 ans après avoir été écrit. J'en ai publié d'autres, notamment ce recueil de poèmes, Toukara en Yereyere, voilà. Toujours aux éditions Aoudi, et puis une autre pièce, Les Tribulations de l'intellectuel cafard, aux éditions L'Harmattan, dirigée au Togo par Didier Amela.
Alors, c'est quoi? Voilà, pour ma question, d'abord, oui. Je ne sais pas si vous voulez justement venir alors à cette question concernant cette réponse de votre ouvrage par rapport au sommet de croix.
J'arrive à cela parce que c'est ça la vraie question.
Tout à fait.
Ceux qui connaissent la littérature togolaise savent que dans les années 90, il y a eu un groupe d'étudiants, nous étions étudiants sortant de l'université, qui a révolutionné cette littérature. Et le professeur Apedo Ama, dans plusieurs de ses publications, a parlé de nous en nous traitant de tractographes, parce qu'à l'époque, nos écrits étaient considérés comme des tracts. Et donc, je suis de ce groupe avec Kanye Alem, avec Kwasi Efui, avec Komlang Banou, avec Baudelin Bodi Banche. Et donc, qu'il y ait des similitudes entre nos œuvres n'est pas étonnant. Ensuite, en termes d'historicité, je vais faire un petit rappel, c'est que nous avons bénéficié d'un coup de pouce. Non seulement nous avions des professeurs comme Apedo Ama et Winu Madji Afan qui nous ont beaucoup poussés, mais nous avons eu la chance de rencontrer de grands écrivains comme Amadou Kourouma, qui vivait à l'époque à Lomé, comme et le Congolais Sonny Labutansi, qui a fait le déplacement de Lomé pour venir nous parler, nous encourager à écrire. Nous avons été imprégnés de leurs œuvres, de leur écriture, en sorte que quand vous lisez tout ce groupe dont je parle, et en termes de thématique et de contenu, nous sommes sur la même longueur d'onde.
Il y a toujours une similitude.
Il y a toujours des similitudes. Et par ailleurs, en 1987, l'AETB, ce qu'on appelait à l'époque l'AETB, que les jeunes ne connaissent pas, c'est l'association des étudiants togolais de l'université de Lomé, avait créé un concours du Bénin, vous voyez, pas de Lomé, oui. Avait créé un concours littéraire dont le premier prix fut remporté par Baudelin Body Banche avec sa pièce de théâtre Compte Rendu. 2 ans plus tard, je remporte le premier prix avec ma pièce Images d'un printemps. Et 1 an plus tard, en 90, Kony remporte le même prix avec La Saga des Rois. Et il publiera 1 an plus tard Le Chemin de Croix.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Toutes nos excuses pour cette coupure momentanée de l'émission, compte tenu alors de la coupure du courant et dans notre studio ici. Et je pense que maintenant tout est revenu à la normale. Merci surtout d'être resté toujours câblé à cette émission. Et nous sommes en train de parler avec ou de discuter avec Sekou Kadjagabalo sur son ouvrage La Folie de Salomé. Cette pièce de théâtre qui a fait objet même d'ailleurs de 2 chroniques avec notre chroniqueur Claude Assiobotis dans ce studio. Et donc nous sommes en train de poser les questions également à notre à l'écrivain sur cet ouvrage. Oui, c'est que vous nous expliquez avant que la coupure n'arrive, vous nous expliquez ce qui constitue même d'ailleurs de similitudes entre votre ouvrage La Folie de Salomé et aussi l'ouvrage alors de Kany Alem, je vais bien parler alors de Chemin de Croix.
Oui, merci. Je vais aller assez vite pour dire qu'il y avait un contexte qui était là et c'est ce contexte qui a vu naître ces œuvres. Donc il n'y a pas d'étonnement d'un point de vue de la création qu'il y ait des points communs, notamment en ce qui concerne la thématique. Ce qui a révolutionné la littérature togolaise dans ces années 90, c'est ce qu'on appelait l'audace de ces jeunes créateurs que nous étions d'avoir abordé des sujets d'ordre politique, ce qui ne se faisait pas avant par les auteurs togolais. Et quant à ce qui concerne la forme littéraire, j'ai choisi le théâtre comme Kany, j'ai écrit des pièces de théâtre bien avant La Folie, des pièces de théâtre avant que Kany ait écrit, et au niveau des personnages, je vais dire maintenant le fond de cette pièce sur un sujet que peu ont abordé en littérature et même en politique. En réalité, je me suis inspiré des événements de ce qu'on a appelé Fréau Jardin, les événements de Fréau Jardin à l'époque. Il y avait eu ce mouvement qui a entraîné 25 janvier 1993. Il y a eu ce massacre. Et je me suis un peu posé la question sur l'attitude, les tenants, les aboutissants des uns et des autres. Je n'étais pas à Lomé, mais je suivais de l'intérieur du pays où j'étais enseignant. Je suivais les mouvements. Et je me suis imaginé un peu qu'est-ce qui a pu se passer dans un camp pour que on en arrive là. C'est la trame qui n'est pas très explicite, mais qui est quand même la trame qui a conduit ce récit. En termes de révolution politique, en termes de mouvement politique, c'est l'événement qui m'a inspiré.
D'accord.
Voilà donc un peu ce que je peux dire pour ne pas aller trop loin.
Justement, c'est que puisque nous n'avons plus assez de temps, alors c'est que peut-on, selon vous, faire la politique et garder sa virginité à 2 niveaux, c'est-à-dire sans intérêt pour soi ou sans porter atteinte à l'humanité de l'autre?
La politique, c'est un choix. Et quand vous choisissez de faire de la politique, vous avez des options. Il y a ceux qui veulent être sincères avec eux-mêmes parce qu'ils portent une conviction très forte qu'ils veulent partager, qu'ils veulent faire connaître, qu'ils veulent même, entre guillemets, imposer. la plupart des grands révolutionnaires, depuis Che Guevara et autres, ont été dans cette logique, mais souvent, ils sont incompris et ils finissent un peu mal, entre guillemets, parce que, bon, l'idéal, on ne l'atteint pas toujours. Et c'est cet idéal qu'on trouve dans la pièce de La Folie de Salomé, avec le personnage de Salomé, qui est porteur de cet idéal, qui revêt finalement un caractère poétique, au sens de la créativité supérieure. Et donc, c'est un choix. Quand vous choisissez de ne pas vous compromettre, attendez-vous à ne pas être compris, avec tous les risques que cela comporte. Mmh.
Ouais. Mais est-ce que c'est aussi le cas sur le continent africain, puisque vous êtes également un observateur de la vie politique sur le continent? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que, tel que vous l'avez expliqué, que c'est un choix et bien sûr avec une idéologie derrière, c'est comme ça que ça se passe en Afrique?
En Afrique, on cite des noms, notamment Thomas Sankara, qui a tenté d'imposer un certain idéal, qui a porté des fruits quand même, et je peux dire que oui, il a essayé. Aujourd'hui, on cite d'autres noms sur lesquels je suis un peu réservé parce que je n'ai pas réellement connu ces personnages politiques. Quand on me cite aujourd'hui Nkrumah, panafricaniste et tout, avec un certain idéal, je suis quand même d'un certain âge et je sais que Nkrumah avait versé dans une sorte de mégalomanie. On le prenait pour Dieu, il se faisait prendre pour Dieu, etc. Donc en Afrique, il y a très peu de voix dans ce sens, mais je pense que ce n'est pas impossible.
Ce n'est pas impossible. Voilà. Mais oui, l'autre constat fait aussi dans votre pièce, c'est que les noms des personnages sont pratiquement des noms des saints. On peut voir, souvent issus même d'ailleurs de la Bible, et là on voit Salomé, on voit Saint Jugurtha, et il y a aussi Saint Timothée, Saint Populus. Finalement, comment se fait-il que c'est
non,
des
non,
noms
c'est, de... c'est un jeu, c'est un jeu. Tous ces personnages ne sont pas bibliques. Salomé, c'est vrai, elle est biblique. Timothée. Par contre, Pompilus, c'est un personnage romain. Et Jugurtha, c'est un personnage de l'Empire de Carthage qui a rivalisé longtemps avec Rome. Et j'ai choisi de les appeler saints parce que dans la pièce, à un moment donné, tous ces personnages se sont retrouvés dans un asile où ils ont créé leur propre univers, où ils se sont pris pour des saints, et quand vous arrivez, comme dans Salomé qui est jeté dans cet asile, ils vous baptisent, ils vous font toute une cérémonie, parce que c'est un monde, finalement, qui est hors de notre monde, mais qui, quand même, est réservé à des gens, entre guillemets, parce qu'ils ont trop parlé. Donc, la sainteté ici, ce n'est pas apprendre au sens biblique, mais c'est apprendre au sens de la canonisation, où l'individu entre comme dans un ordre par rapport à sa marginalisation au regard du discours courant.
Mmh. Alors, le personnage du prêtre, et l'allusion à ce personnage que Salomé finit par nommer l'archevêque et injurier, l'allusion est très claire. Vous ne craignez pas... est-ce que vous ne craignez pas que l'opinion vous accuse d'être, en tant qu'écrivain, alors du côté du plus fort, des plus forts? Et jusqu'où, selon vous, le clergé doit demeurer aux côtés alors des faibles et des humiliés?
Le clergé devrait être du côté des faibles, du côté des humiliés, comme vous dites. Ça devrait être ça, le clergé. Et quelque part dans la pièce, j'écris ce passage, là, parce que l'espace où ça se déroule s'appelle Cani. À Cani, il y a les cannibaleurs et les cannibalés. Et en principe, le clergé doit être du côté des cannibalés. Et ce que je dis à propos des prêtres, peut-être qu'on peut le remettre en cause, mais vous constaterez avec moi que l'accompagnement pastoral des mouvements sociaux en Afrique n'a pas toujours été ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'au début, on a vu le clergé se mettre du côté des intérêts du peuple, mais au fur et à mesure qu'on a avancé, les révolutionnaires ou les responsables politiques, étant dans leur logique politique, sont entrés dans une sorte de compromission. Malheureusement, moi, j'ai constaté que le clergé est allé avec eux par une certaine solidarité qui n'était pas toujours dans l'intérêt du peuple. Donc, on voit le clergé qui dit « oui, nous sommes avec le peuple », mais au bout, on est plus avec ceux qui se disent porte-parole du peuple qu'avec le peuple lui-même. Et donc, Salomé conteste cela. Salomé conteste cette partialité ou cette hypocrisie du clergé. Cela étant, moi je crains Dieu, j'ai la foi en Dieu. Je me dis, je reprends beaucoup le discours de Jésus-Christ. Il était du côté du peuple. Il était du côté des opprimés. Ça lui a valu ce que ça lui a valu. Mais il est, et je sais qu'aujourd'hui, il est difficile pour un homme de Dieu, entre guillemets, de tenir jusqu'au bout dans ce discours-là. Parce que là, ça a ses contraintes également.
Mais est-ce que ça reflète la position du clergé aujourd'hui dans notre société?
Dans notre société, clergé, s'exprimer sur des questions politiques ou des questions sociales, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les gens vous disent non, vous êtes des prêtres, contentez-vous de votre Dieu, les intérêts, les questions politiques, sociales, ça ne vous regarde pas, mais en réalité, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que, quand on dit clergé, il faut le prendre globalement. Parce qu'il y a, je m'excuse, les musulmans qu'on a tendance à oublier. Il y a les prêtres traditionnels qu'on a tendance à oublier. Tout ce monde-là devrait revenir à ce qui le fonde, c'est-à-dire le peuple lui-même. Malheureusement, ce n'est pas ce que je vois.
D'accord. Malheureusement, c'est pas que ce que vous voyez. Eric?
Non, mais par rapport à cette question du clergé, je continue par me dire que aujourd'hui, ce serait une tâche vraiment difficile pour le clergé de se mettre totalement du côté du peuple. Certes, on voit des positions, on écoute des discours, on entend des réactions du clergé, mais il faut reconnaître que le clergé a aussi besoin des dirigeants pour pouvoir asseoir quand même le corps du Christ, comme on le dit. Et donc, je me dis que vous avez, au début de vos propos, parlé de la contemporalité. Et donc, en son temps, c'est ce qui devrait se faire. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas?
Bon, la situation sociale, en réalité, est très, très, très mouvante. Hein. Elle n'est pas stable, elle n'est pas fixe. Et il est vrai que à un moment donné, il y avait une certaine facilité à faire certaines choses. Aujourd'hui, si je lis la scène politique dans mon pays ou ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup d'instabilité qui, malheureusement, ne permet pas toujours de se tenir à ses convictions. Mais moi, je crois que, quoi qu'il arrive, les hommes d'église, les membres du clergé devront toujours faire l'effort de se mettre au service du peuple. C'est vrai que l'autorité ou, disons, ceux qui dirigent la société ont le devoir de créer les conditions qui vont permettre à chacun d'exercer sa part de responsabilité. Et en cela, les hommes d'église, oui, ils ont besoin d'eux. Mais cela ne devrait pas les empêcher de jouer leur partition comme il faut.
D'accord. Oui, Jean-Baptiste?
Je crois que notre ami a tout dit, puisque aujourd'hui, quand on parle du clergé, c'est une question d'actualité avec la situation que vit notre pays. Quand on prend le clergé catholique, sa position vis-à-vis des acteurs politiques et aussi le clergé musulman avec le tout dernier événement, avec la nomination de leur premier responsable en tant que sénateur, je crois qu'aujourd'hui, dissocier le clergé de la politique politicienne, c'est une question qui est d'actualité. Et si on doit quand même leur demander d'être aux côtés du peuple, puisque eux-mêmes, ils font partie du peuple. Alors, s'ils doivent être aux côtés du peuple, sans se mêler aux actions politiques, je crois qu'ils vont subir, eux aussi, cette politique politicienne-là. Parce que les décisions que les politiciens prennent, tout le monde subit indistinctement ces décisions. Donc, est-ce qu'il faut rester en marge de cette décision politique ou bien agir pour pouvoir corriger cette décision politique, C'est là la question qui se pose.
C'est là la question qui se pose. Isidore Kolo, bonjour.
Bonjour.
Voilà, pour cette question alors de la politique et le clergé, clergé à prendre également dans son sens global, bien sûr, tel que Sekou l'a dit tout de suite. Et finalement, c'est quoi votre analyse?
Non, moi je vais remonter dans l'histoire. Hein. Notre écrivain a dit que bon, le déclic lui était venu lors des incidents, enfin, de Fréau Jardin. Bon, en remontant plus loin, avant, il y avait eu des prélats qui ont protégé les présidents de la République. Je ne vous apprends rien. Qui ont fait leur choix d'être du côté des gouvernants. Même aujourd'hui, on en trouve encore qui célèbrent chaque année une journée nationale de prière. Donc ça aussi, c'est politique.
Une journée nationale de reconnaissance à Dieu.
Bon, je n'irai pas loin, je dis seulement de prière. Donc voilà autant d'amalgames qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la vie publique. Je ne dirais pas forcément politique.
De
la vie religieuse. Ça, c'est mon point de vue.
C'est votre point de vue. C'est que vous restez avec nous hein, pour participer même à ce débat s'il le faut. Et ça, puisque nous débattons alors de l'actualité et tout ce qui fait l'actualité, ça nous intéresse tel qu'écrit hein, par les journaux. Il y a le journal, le correcteur qui est revenu sur cette question de Afrobaromètre, en fait, ce sondage alors d'Afrobaromètre, et dont les résultats stipulent que un tiers des Togolais envisagent partir ou quitter le pays. Le journal Le Correcteur écrit des Togolais en fuite vers l'étranger, les conséquences de l'entretien de l'industrie de la misère imposée. Alors, Isidore, quand vous avez appris déjà ce sondage, les résultats alors de ce sondage d'Afrobaromètre qui dit que déjà il y a un tiers des Togolais qui envisagent partir, est-ce que vous avez été étonné ou surpris?
Non, pas du tout. Ça ne vient que confirmer ce que se disait hein, partout, même dans les rues. Vous prenez 5 Togolais, 3 au moins vont vous dire que bon, ils préfèrent aller ailleurs. Bon, si nous autres, nous n'avions pas voulu le faire, mais c'était ça, notre, l'objectif hein, de la jeunesse africaine, j'allais dire. Vous voyez, ceux qui même vont mourir dans l'océan. Parce que on ne les fait pas rêver. On a les Africains, je ne dirais pas particulièrement les Togolais, mais on n'a plus d'idéal. Nos pays ne nous font plus rêver. Manque de vision, il n'y a pas de perspective. Et l'avenir s'assombrit au jour le jour. Et bon, nous sommes déjà dans la soixantaine. On ne peut plus aller encore en aventure. Mais beaucoup de jeunes veulent partir. Même, je dis que le tiers, c'est peu, hein, c'est peu. Peut-être si on fait une analyse poussée ou un sondage quantitatif, parce que là, c'est un sondage qualitatif, et vous verrez que la quantitative, quand on fait ça, vous verrez que c'est peut-être 7 Togolais sur 10 qui veulent quitter le pays.
Merci, Isidore. Eric? Est-ce que vous comprenez cet engouement des Togolais à partir et aller à l'extérieur?
Oui, mais écoutez, quand vous êtes là et on vous dit qu'il y a des gens qui ont eu des diplômes au Togo et leurs frères qui ont eu des diplômes à l'extérieur, ils rentrent, qu'est-ce qui se passe? On choisit celui qui vient de l'extérieur. On dit que lui, il a beaucoup plus de bagages, le système éducatif lui a permis de mieux connaître la chose que celui qui a fait son cursus scolaire sur place. Ça, c'est un premier fait. Le second fait, lorsque vous êtes là, vos cousins, vos amis rentrent de l'extérieur, vous voyez leur niveau de vie, vous vous dites qu'il y a un problème. Qu'est-ce que moi je cherche sur place? Pourquoi ne pas aller les rejoindre là-bas et avoir le même niveau de vie? Parce que on estime qu'ailleurs, c'est l'Eldorado. Le troisième fait, c'est que quand on engage des gens dans l'administration, parce qu'il faut parler de ça, dans l'administration, vous voyez leur traitement salarial. Quelqu'un qui va à l'extérieur, il fait 5 ans, puisque, enfin, c'est ce que nous avons eu comme éducation. Et mon fils, quand tu vas finir tes études, construis-moi une maison, achète-toi une voiture, etc. Et donc, après 5 ans, lui, il a déjà son petit lopin de terre, il a commencé son chantier. Et donc, vous qui êtes ici, même après 5 ans, vous n'arrivez même pas encore à faire un prêt pour pouvoir avoir, ce confort-là. Et donc, c'est des situations d'abord qui poussent les individus à se dire pourquoi ne pas aller à l'extérieur. Maintenant, quand on prend ce sondage d'Afrobaromètre que j'ai parcouru, j'ai dit il y a un fait qui n'a pas été touché. Aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes, ils disent, nous cherchons du boulot. Vous les engagez, mais il faut voir de quelle manière ils travaillent. Excusez-moi, mais le terme, c'est du je m'en foutisme total.
Voilà, il n'y a plus d'assiduité au travail.
Il n'y en a pas. Et on n'est pas du tout professionnel. Et tout ça, je dis aussi que l'on vient tout de suite pour se dire mon devancier, il a déjà un véhicule. Moi, j'arrive, il faut que je trouve rapidement mon véhicule. Alors que c'est tout un parcours. Mais les jeunes d'aujourd'hui, moi, quand on dit les jeunes, ils veulent partir, mais attention, de l'autre côté, vous allez changer de mentalité avant de pouvoir réussir. Il faut qu'on se le mette dans la tête. Parce que là-bas, excusez-moi, mais le blanc, il ne te donne pas son argent pour tes beaux yeux. Ici, les gens peuvent venir pendant tout un mois sans rien faire au boulot, mais ils sont payés à la fin du mois, malheureusement. Et donc, il y a cette conscience professionnelle qui manque déjà. Et je dis, tous ceux qui partent, c'est qu'ils recommencent une nouvelle vie. Et ce sondage a oublié de prendre cet indice-là pour mieux jauger la chose.
Oui, c'est cool. Est-ce que finalement, puisque déjà dans cette question alors, ou dans ce sondage, on comprend que c'est les jeunes qui sont plus intéressés par le voyage pour aller même à l'extérieur, mais est-ce que ce ne sont pas des bras valides que le pays est en train de perdre?
Oui, merci. Je voudrais d'abord revenir sur le sondage. Personnellement, je ne me fie pas tellement au sondage. Du moins en termes de chiffres. Quand on me dit un tiers, je ne sais pas réellement comment on a pu calculer ce tiers-là. Parce que la question du sondage en Afrique, c'est un grand point d'interrogation sur sa fiabilité. Il n'empêche que tout le monde reconnaît quand vous êtes dans la rue, chacun veut partir. Et pas seulement les jeunes.
Oui.
Pas seulement les jeunes. Mon frère parlait de 60 ans tout à l'heure. Des soixantenaires partent. Gens prennent la retraite et ils partent.
Bien sûr.
Bon, parce qu'on pense qu'ailleurs, c'est mieux. Mais c'est dans la tête de l'homme depuis. Hein. Dans les années 40-50, le Togo était pourvoyeur de main-d'œuvre au Gabon, en Centrafrique et autres. Donc les gens partaient depuis. Il n'empêche que le Togolais, celui qui parle le moins, quand je regarde les Ivoiriens, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés qui viennent ici quand nous on veut aller ailleurs. Donc la question du départ est peut-être dans le gène de l'homme. Maintenant, il faut reconnaître aussi, toutes les analyses que j'ai entendues sont vraies, la question de l'emploi est cruciale. Et ce qui est étonnant, c'est que quand vous suivez les médias, il y a beaucoup d'initiatives sur l'accompagnement du secteur privé, sur les projets ici, les projets là. Et pourquoi, malgré tout cela, on a l'impression qu'il n'y a pas d'emploi? Tout le monde court vers la fonction publique. Dès qu'on dit concours de la fonction publique, les dossiers, c'est des avalanches. Quand on dit 2000 places, on trouve 200 000 dossiers. Quelque part, il y a un problème dans la tête du Togolais, parce que on ne veut pas prendre des initiatives personnelles pour créer. On veut que quelqu'un crée. Et comme mon frère vient de le dire, parfois vous créez votre structure et puis quelqu'un vient vous la faire sombrer parce que lui, il ne pense qu'à son bien-être, au luxe. Il ne veut même pas parler de bien-être, de luxe. Alors, il faut peut-être démythifier l'étranger. C'est vrai, des gens qui sont honnêtes reviennent témoigner. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dû changer, etc. Mais les gens ne comprennent pas encore cela. On peut créer le bonheur ici, mais pour cela aussi, il faut peut-être un travail de fond. Moi, je suis enseignant et de plus en plus, je dis aux élèves, quand tu as le bac, ne pense pas nécessairement à l'université. Tu peux aller apprendre la maçonnerie, la menuiserie, etc. Des choses qui sont porteuses, quitte à ce que tu puisses continuer parallèlement tes études. Parce que quand on n'a pas un métier sous la main, c'est en ce moment que vraiment ça devient difficile et on croit que le salut est à l'étranger, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ce qui n'est pas toujours le cas. Jean-Baptiste, est-ce que vous pensez aussi que le salut n'est pas toujours à l'extérieur?
Bon, ça dépend. Concernant le fait que traditionnellement, on dit que les Togolais ne voyagent pas. Ils ne voyagent pas, ils préfèrent rester dans leur pays pour pouvoir s'épanouir. Mais aujourd'hui, la tendance est en train d'être inversée et ce qui a été confirmé par cette analyse ou bien ces résultats d'Afrobaromètre. Et je crois que nous devons quand même nous interroger si réellement le salut est ailleurs. Parce que aujourd'hui, dans notre pays, c'est qu'il y a un dégoût total. Dégoût parce que il y a des crises politiques qui font que l'économie du pays ne marche pas. Et chaque fois, surtout quand le phénomène s'observe, surtout les débuts d'année, parfois les trois premiers mois de l'année, pour trouver 1000 francs, c'est difficile pour le Togolais. Et parfois aussi, à l'issue des élections, le problème se fait sentir gravement dans le pays. Le vécu devient difficile pour les Togolais. Alors, quelle est la cause? Quelle est la cause de cette situation récurrente? Et les décideurs doivent quand même se poser des questions et trouver des réponses idoines. Aujourd'hui, quand on parle de départ des Togolais, je crois qu'il y a des services appropriés qui peuvent en témoigner. Le service des passeports,
de l'immigration
peut quand même témoigner cela parce que ce n'est pas je pense que ce n'est pas une affirmation gratuite que Afrobaromètre a eu à faire. Tout autour de nous, des amis qu'on soupçonnait qui ont quand même des situations ici. Il y a des gens qui sont des fonctionnaires. Je connais des amis qui sont dans le corps médical et du lendemain, on les retrouve au Canada. J'en connais des camarades. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que le phénomène auquel nous assistons, le départ massif des Togolais aujourd'hui, c'est que c'est-à-dire que la situation interne du pays n'est plus vraiment enviable. Mon ami parlait tout à l'heure des concours. On lance des concours pour recruter 1000 personnes. Vous allez voir 200 000 candidatures. Ça, c'est un indicateur palpable que il y a problème d'emploi. Il y a le problème d'emploi aujourd'hui, il y a ceux qu'on recrute finalement au bout des processus de recrutement, ce sont des militants d'un parti qu'on connaît. Wow. Oui, bien sûr, parce que vous savez, hier encore, il y a eu quand même.
C'est ça.
Oui, vous allez me poser la question si je connais. Absolument. Cette question, tu as bien posé ça parce que on a eu des gens qui ont au cours des périodes électorales battu campagne pour le parti et puis au lendemain, patata, les résultats sont
pour... C'est ça, non? Faut pas aller chercher loin. Il y a même un fonctionnaire qui a témoigné. Est-ce que vous savez comment nous faisons pour vous intégrer dans la fonction publique?
C'est clair. Et le problème est palpable. Vous connaissez des gens.
Recadrons le débat. Bien sûr. Parlons maintenant alors de cette question, alors de fuite des cerveaux, de départ des gens. Alors,
oui, à ce niveau, je voulais encore enchérir en disant que nous avons perdu cette fierté d'être Togolais. Il nous souvient, je passe le contrôle de. Peut-être de l'écrivain.
Secou.
Avant les années des indépendances, on a proposé à nos AE la citoyenneté française qu'ils auraient refusée. Qu'ils préfèrent être Togolais que d'être Français. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On court d'après même cette nationalité française.
Mais écoutez, si
plus de 60 ans déjà, ou plus tôt, nos aïeux ont refusé d'avoir cette nationalité française, et qu'aujourd'hui, la nouvelle génération court après cette nationalité, donc ça veut dire que les rôles se sont inversés et cette fierté d'être Togolais n'existe plus. C'est ce que je disais tantôt, que nos autorités ne nous font pas rêver.
Ok, merci. Oui, Eric, moi, la question que j'aimerais poser, c'est concernant ce que Sekou évoquait tout de suite sur les médias. Vous allez écouter même d'ailleurs qu'il y a des mécanismes d'entrepreneuriat et tout qu'on avance, surtout pour les jeunes. Mais finalement, au même moment, on nous parle alors de ces jeunes qui veulent partir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas?
Oui, en réalité, c'est la communication. Tout le problème repose aujourd'hui sur la communication. Je pense que je l'avais dit tantôt il y a quelques mois ici, que personnellement, au niveau de notre organe de presse, l'Union, nous avons pris sur nous de relever ces différents projets qui sont porteurs. Nous n'hésitons pas, lorsque nous avons l'information, de la porter au niveau de l'opinion, afin que les jeunes s'en saisissent. Malheureusement pour moi, je n'étais pas là il y a deux semaines. J'avais fait une publication et j'ai oublié même de t'appeler pour te demander de dire deux mots là-dessus pour que les jeunes qui aimeraient entrer dans l'infographie, qu'ils aillent à l'Institut français, parce qu'il y avait une formation gratuite sur un logiciel de montage de vidéos et même de cinéma, de films, je veux dire. Donc c'était une occasion pour les jeunes pour aller apprendre gratuitement. Vous ne payez rien, vous y allez simplement, on vous montre ce logiciel et vous pourrez même continuer les discussions avec les formateurs. C'était quand même une aubaine. Je dis, quand vous voyez tout ce qu'on a eu, j'ai donné l'exemple d'un jeune qui a lu un jour fortuitement mon journal et qui est rentré dans cette histoire du projet PRR ou PER, je ne sais pas, dans
l'agriculture.
Dans l'agriculture. Mmh. Et ce jeune, il est allé, il a postulé, on lui a donné le financement et le gars, il a commencé par élever des chèvres. Et c'est comme ça, il est venu avec une chèvre pour nous en offrir. Donc, je dis, il faut communiquer beaucoup sur ces différents projets. Il y a eu le projet PIDC qui a formé des jeunes dans l'agriculture. Quand vous voyez les tubercules de manioc, qui ont été récoltés par ces jeunes-là, c'est plus que la tubercule d'igname. Et donc, c'est des trucs qu'il faut faire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas évident, mais il faut chercher aussi à informer les jeunes. On sort des projets. Vous ne savez pas combien de projets il y a aujourd'hui au niveau du ministère de l'Environnement. Mais les jeunes ne sont pas au courant, mais c'est des projets porteurs. Et donc, je crois qu'il faut véritablement informer.
D'accord, merci Eric. Eric, je reste avec toi pour cette fois-ci parler de de la question de l'inclusion des femmes africaines.
S'il vous plaît. Juste un mot, pour dire qu'il y a quand même un malaise. C'est que celui qui part, bizarrement, c'est votre ami, le plus proche, le plus intime. Et puis, vous vous réveillez un matin, vous apprenez qu'il est parti. Sans rien vous dire. Il y a un point d'interrogation. Pourquoi on ne veut pas dire qu'on part? C'est juste une observation. Je lance une petite...
Je disais que je reste avec toi pour parler de l'inclusion des femmes africaines. Et vous écrivez indice d'inclusion des femmes africaines 2025. Le Togo est 17e sur 42 pays étudiés. Et le pays obtient une note de 57,4 points sur 100. Et là aussi, il faut de la communication.
Ah oui, évidemment. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec les femmes, c'est-à-dire que déjà au niveau de l'ONU, il y a des initiatives qui ont été prises pour que cette histoire d'égalité du genre. Mais je pense que c'est un problème fondamental en Afrique où, à cause des considérations religieuses parfois, des considérations ethniques, etc., les femmes n'arrivent pas encore à émerger. Cependant, il y a quand même des politiques, de façon générale, des lois qui sont votées pour permettre à la femme quand même d'apporter sa contribution au développement économique. Chaque année, il y a une institution africaine qui essaie de voir quel est le niveau d'inclusion de la femme dans chaque pays. Et comme ça a été dit, sur 42 pays qui ont été étudiés en 2005, au fait, c'est des indicateurs de 2022. C'est-à-dire des choses qui se sont passées en 2022 qu'on essaie de regrouper pour voir avec des indications, des dimensions comme le droit et les structures juridiques, le leadership et l'inclusion financière et l'inclusion économique. Et c'est au niveau de ces quatre dimensions-là que les différents pays ont été évalués. Et je peux dire, au niveau de droit et des structures juridiques, le Togo a fait un progrès, une progression, mais quant au leadership, le Togo a reculé de presque 4 points par rapport à ce rapport-là. Et donc, le nombre de points totalisé, c'est 57,4 sur 100, alors que les premiers sont dans les 70. L'Afrique du Sud est à peu près à 80% et les autres pays suivent.
D'accord. Je voudrais quand même qu'on quitte le sujet pour parler politique, mais Isidore veut ajouter quelque chose rapidement.
Oui, je reste dubitatif sur ces résultats. Et surtout qu'on dise que le Togo occupe une bonne place. Et depuis que le grand marché d'Adablato a été incendié, a été brûlé, vous nous parlez d'inclusion de la femme. Vous savez combien de fois nos mamans ont souffert ou souffrent jusqu'à présent. Et on nous parle d'inclusion économique, inclusion financière. Et permettez que je puisse s'en douter. Idem pour le marché de... Comment appelle-t-on ?
Cara.
De Cara. Et le tout Assier. Dernièrement, Assier. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'on sait que, c'est les femmes qui sont les plus en vue ou qui viennent plus en aide aux enfants et à leurs enfants que les hommes. Bon, on parle d'inclusion et des femmes. Permettre que je puisse douter. Mais sur le plan légal, sur les tests et autres, là, on a fait beaucoup de progrès. On a nommé des femmes à des postes de responsabilité. Et donc, on a fait la promotion.
On va revenir sur le sujet. Il n'y a pas de souci. On va revenir sur le débat. Et Jean-Baptiste, alors, je voudrais qu'on dise un mot, justement, sur la politique, bien sûr, parce que je l'annonçais, bien sûr, concernant le cadre permanent de concertation qui a tenu sa réunion le vendredi dernier, c'est-à-dire en fin de semaine, bien sûr. Et là, au-delà de tout, la question des municipales a été, même d'ailleurs, au cœur des débats avec les politique, et il y a aussi le journal, le médium qui est revenu sur des sujets politiques ce matin, le journal écrit Parlement, ouverture ce mardi de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, élection du bureau du Sénat attendue demain mercredi. Alors finalement, on pourra dire que la 5e République est en marche.
Bon, cette question, je ne suis pas habilité à répondre à cette question parce que vous savez, si on s'en tient aux normes, il y a quand même à dire clairement que la volonté du peuple n'est pas respectée dans tout ce qui est en train de se faire dans notre pays depuis plus d'un an déjà. Revenant sur peut-être les le Sénat, le Sénat qui devrait quand même connaître son bureau, c'est dans l'ordre de du coup de force qui a commencé par se faire depuis quelques mois avec la 5e République qui ma foi continue de susciter des remous parce que n'ayant pas suivi les règles orthodoxes de la démocratie, et aujourd'hui c'est un coup d'État qui a conduit à la mise en place de ces institutions que nous connaissons aujourd'hui.
Merci.
Le débat reste toujours
ouvert. Merci. C'est que je voudrais également votre avis sur cette question, puisque je sais que vous êtes écrivain, enseignant aussi. C'est quoi votre analyse alors sur cette 5e République?
Oh, mon analyse n'est pas grande. Hein. C'est, vous savez, la politique ne peut pas être figé dans le temps.
C'est dynamique.
Oui, quelqu'un a pensé qu'il nous faut une certaine 5e République. Nous y sommes, on verra ce que ça va donner.
On verra ce que ça va donner. Il y a notre temps qui nous talonne. Nous allons écouter aussi nos auditeurs sur nos sujets débattus ici au Club de la Presse. C'est le principe de l'émission. Nous allons leur donner la parole sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Ils peuvent réagir aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous allons écouter nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Notre premier auditeur est en ligne. Allô?
Allô, pasteur.
Oui, Basile, bonjour. Comment vous allez?
Ah, togolaisement.
D'accord. Allez-y.
Bon, je ne vous ai pas suivi, je viens de me réveiller comme ça, mais j'ai entendu le nom de Jean-Baptiste et puis vous avez dit que il y a un deuxième, vous avez parlé qu'il est enseignant. Bon, je ne sais pas de qui il s'agit. Mais j'ai entendu dire que la politique n'est pas figée dans le temps. Non, ce n'est pas comme ça. La politique, même si c'est elle, n'est pas figée dans le temps, on ne doit pas faire de n'importe quoi. Le sort de tout un peuple qui est en jeu, de tout un pays qui est en jeu, on ne peut pas se lever et faire ce qu'on veut. Parce qu'on veut que quelqu'un soit au pouvoir ad vitam aeternam. Non, ça ne doit pas être comme ça. S'il est enseignant vraiment et qu'il parle comme ça, ça veut dire que nous avons vraiment du pain sur la planche dans notre pays. Mais si je ne vous ai pas écouté, donc c'est tout ce que j'ai pu écouter.
Donc, vous avez réagi sur ce que vous avez écouté. Basile, merci pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien.
Votre nom, c'est Johannes.
Oui.
Allez-y.
Vous savez, quand on ne suit pas les informations à la PVT de façon avec un certain esprit critique, on aura l'impression que tout va très bien dans ce pays. Moi, depuis un temps, j'ai pris la peine d'avoir un carnet noté à côté. À chaque fois que je suis les annonces de projets au journal, vous allez vous rendre compte que c'est toujours on parle toujours presque des mêmes projets à chaque fois. C'est les mêmes projets qui reviennent et on les traite sous différents angles. Il n'y a pas de différence. Les mêmes projets dont on parle depuis des années, c'est toujours les mêmes informations sur ces projets qui reviennent. Et on les traite sous différents angles. Et on va croire qu'il y a du nouveau, il y a du nouveau. Tous les projets. C'est parce que je suis le journal, depuis un certain temps, moi je me rends compte qu'on parle toujours des mêmes projets. Vous prenez l'année dernière, vous prenez toutes les éditions du journal, on a parlé des projets en faveur des jeunes, tout ça là. Tous ces projets dont on a parlé, cette année, ces mêmes projets vont revenir aux éditions du journal à TVT, on va voir ce qu'il y a du nouveau. C'est là où il y a le problème. Et quand on ne suit pas ces informations avec un certain esprit critique, on va se laisser berner par la TVT. Merci et bonne journée.
Merci à vous, Johannes, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Bonjour, papa Sodiné. Comment vous allez?
Oui, ça va.
D'accord, allez-y.
Tout à l'heure, vous avez parlé du départ, surtout des jeunes. Ah, mais vous aussi, vous avez trouvé l'occasion, vous n'avez pas parti. La souffrance dans ce pays, c'est beaucoup, c'est elle-même, c'est immense. Donc, tout le monde souffre dans le pays. Il n'y a pas d'emploi. Vous gagnez difficilement à manger avec la famille, avec votre famille. Donc, c'est tout le monde qui cherche à partir. Hein.
Alors, on va se dire.
Oui.
Ce qui veut dire que si vous trouvez maintenant l'occasion, l'opportunité, vous partirez.
Moi, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. La souffrance dans ce pays, on a de la peine à faire nourrir la famille. Hein.
D'accord. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Oui, bonne journée à vous. Bonjour le plateau. Personne ne peut nous dire le contraire. Pour ce qui est de ce sondage réel, les Togolais partent pour la simple raison qu'il n'y a rien au pays. On peut être maçon, menuisier ou plombier. Tu rases les murs pour trouver du job. La situation dans le pays ne peut plus nous donner envie d'y rester. Les jeunes s'efforcent à crier, mais le gouvernement avec ses taxes et impôts. Mais tout en terre et c'est un désespoir. C'est Ibrahim qui nous écrit 90 86 37 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est monsieur Nyamavo.
D'accord, allez-y.
C'est même pas pro baromètre, même à travers vos émissions. Quand on fait le sondage, vous allez constater que 99% des Togolais ne sont pas d'accord par rapport à ce qui se passe dans le pays.
99% vous dites?
Ah, mais après, vous allez faire le sondage. Aujourd'hui même, ceux qui vont appeler, peut-être nous en serait 100% qui vont appeler, qui sont contre la Constitution et ce qui se passe dans le pays. Vous allez faire les statistiques tout à l'heure vous-même. Parlons de la 5e République. Oui, on ne peut pas rester distigé. Mais je vous avais dit que c'est une condition létale. Le régime n'avait pas soutenu la 4e République. Elle a tout fait pour s'accuser ça. Tout le long de son parcours, et aujourd'hui, patatras, on est à la 5e République. Je crois que c'est la République qui ne va pas durer dans le temps. C'est d'ici peu, ça ne va pas faire 5 ans. Alors, concernant la difficulté des jeunes qui partent, on a des amis qui sont à l'étranger, qui sont infirmiers, qui étaient d'abord formés dans l'armée togolaise. Ils ont déserté, ils sont partis. Certains sont en Côte d'Ivoire, ils ont montré leur job. Ils sont plus à l'aise en Côte d'Ivoire qu'au Togo. Au sein de l'armée, Eric, vous allez dire que l'armée aussi, ils sont paresseux. Vous allez voir, quelqu'un l'a dit, que projet, après un certain nombre d'années, on vous montre le même projet. Il n'y a pas longtemps, on a formé certains jeunes dans le domaine halieutique. On leur fait savoir qu'ils sont comme les joueurs qui attendent le ballon, que le ballon vienne. On ne va pas à la recherche du ballon. Mais les jeunes ont le courage de leur dire que, avant cette formation, c'est pas eux qui leur donnaient à manger. Ils ont commencé par filmer leur jardin, leur projet, leur montrer. Mais c'est ça. Les jeunes sont dynamiques. Mais quand ils disent sans formation, au lieu de dire renforcement des capacités des jeunes, ils forment quoi? Mais peut-être même le formateur qui dit aux jeunes que, ils attendent le ballon. lui-même, il n'a même pas une pisciculture. Il est seulement appelé formateur. Un formateur doit normalement avoir pisciculture pour servir de d'éléments pour montrer comment ça se fait.
Merci,
on ne va pas créer quelque part, lui, il forme. Il n'a même pas une piscine idéogène qui sont paresseux, non?
D'accord, merci, monsieur Namavo. Oui, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. Bonjour, Canal FM. Comment les jeunes ne vont pas penser quitter le pays avec tout ce qui se passe? Vous pouvez imaginer qu'on demande le bac plus 2 avant d'être gérant d'une buvette. Franchement, c'est déplorable. Nos dirigeants doivent penser aux jeunes. C'est André qui nous écrit depuis Dakar. 90, 86, 35, 35. Allô, madame, ici, bonjour. Oui, bonjour. Et j'espère que vous allez bien.
David, ma mère et tout le monde. Bon, ben voilà quoi. Moi, j'en ris plutôt. J'en ris parce que je me dis, mais pourquoi les difficultés sont où là pour le président, pour lâcher prise quoi. Mais c'est une république. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas quoi. La politique d'appauvrissement. Appauvrir la population et la mettre à 7 000. Dira combien d'années encore. Plus de 6 décennies, ils sont dessus. Moi, je serai le président là. Je ne vais pas suivre les pas des anciens. Hein? En 2005, comme c'est arrivé là, ce pays, ce peuple souffre beaucoup, peine beaucoup. Moi, je ferai tout, flololo, quoi, cool. Et je passerai la main depuis, je ne vais pas arriver jusqu'à la 5e République monarchique, tout ça là, pour en faire quoi? Qu'est-ce qu'il va en faire? Oh, et tout le monde veut nous. C'est pas bon. Hein? Il faut qu'il passe la main, il faut qu'il arrête. Moi, j'en ris, quoi. Le problème se passe où? Vous, là, mes frères. C'est une République. 5 ans, on a dit, ils ont fait 12 mandats. Ils ne sont pas rassasiés. Merci.
Merci, madame ici. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Allô?
Ouais, je reviens, mais il faut dire que les jeunes ont raison. Ils doivent quitter le pays. Le pays qu'on leur a arraché comme ça. Et puis, il n'y a personne pour nous défendre. Vous, les leaders d'opinion, quand vous venez, vous dites que, constitution là, on doit changer parce que il est écrit dans la 4e qu'on peut changer ça avec les députés. Alors que c'est faux.
Mais oui, Basile, merci, parce que ce que vous dites là, on ne l'a pas dit dans cette émission. Je ne pense même pas que quelqu'un l'a dit hein, sur le plateau ici. Salutations cordiales, mon Pascal. Personnellement, même si je trouve la possibilité d'avoir une autre nationalité, je vais abandonner la nationalité togolaise. C'est docteur Segbignon hein, qui nous écrit, et il le dit. Nous allons revenir en plateau. Il y a des gens quand même qui nous ont envoyé beaucoup de messages pour bien sûr cette émission. Je lis ce dernier message avant quand même de vous donner la parole pour un dernier tour de table. Bonjour Pascal et le panel, les politiciens et nos dirigeants ont échoué lamentablement. L'espoir et l'espérance ont quitté la jeunesse qui désespère, fuit alors que son triste destin dans ce pays. Aimons notre pays et ensemble nous pourrons le construire. C'est Koku qui nous écrit depuis Avepozo. Alors, on revient en plateau pour un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Eric, vous avez écouté les uns les autres alors se prononcer sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici. Vous avez sans doute compris qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à ce sujet de sondage Afrobaromètre qui dit qu'il y a un tiers des Togolais qui envisagent quitter le pays. Est-ce que ça se comprend?
Oui, moi je voudrais rapidement répondre à M. Nyamavo qui m'a interpellé en me demandant que si les militaires aussi sont paresseux parce qu'ils veulent aussi quitter le pays. Alors, la question est de savoir qui a demandé à quelqu'un de devenir militaire. Si c'est ton choix, mais bats-toi. Mais si tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut avoir un certain niveau de vie, c'est pas exclu. Tout le monde doit être ambitieux quand même. Mais les gens qui ne terminent même pas leur apprentissage, ils veulent se former à quelque chose, ils ne finissent pas et ils disent que ça ne va pas. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont aptes à faire quelque chose? Je disais tantôt, quand vous quittez le pays, vous arrivez ailleurs, vous allez tout reprendre à zéro. Parce que celui qui est là-bas pour travailler, il a eu une formation. C'est pour ça on parle, je suis d'accord avec l'auditeur qui a parlé de formation continue. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ici, nous avons aussi des opportunités. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas des extraterrestres. Nous pouvons aussi faire comme eux. Néanmoins, si on a l'opportunité d'aller ailleurs, d'apprendre de bonnes choses, de nouvelles choses, et apporter une contribution au pays, je pense que tout le monde peut le faire. Et je suis d'accord avec tous ceux qui pensent qu'il faut quand même sortir pour voir comment ça se passe ailleurs. C'est une bonne chose. Néanmoins, quitter pour quitter là, aller en aventure, c'est un autre drame encore.
D'accord. Oui, c'est quoi un mot de la fin?
Oui, juste un mot pour dire que je suis presque sûr que d'ici 5 ans, si les données n'ont pas changé, beaucoup de Burkinabés reviendront de l'étranger dans leur pays pour que ce pays-là ait une image qui va étonner le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Et je crois que quand la gouvernance est sérieuse, au lieu de fuir, les gens reviennent vers leur pays pour y partager tout ce qu'ils ont appris à l'extérieur. Et
vous êtes admiratif au travail qui se fait.
Oui, je suis très admiratif de ce qui se fait au Burkina.
Burkina Faso.
Et j'espère que nous aussi, nous pourrons nous engager dans cette voie.
D'accord. Jean-Baptiste, 30 secondes.
Oui, merci bien. Mais je crois que nous devons être sincères et sérieux envers ce qui se fait dans notre pays. Et la gouvernance ne va pas bien dans notre pays et c'est ça qui fait fuir la population. On ne va pas dire les jeunes, mais la population, parce qu'il y a des personnes âgées, les auditeurs âgés qui ont extériorisé leur désir de quitter le Togo. Alors ça devient un problème sérieux auquel les gouvernants doivent faire face, parce que la gouvernance n'est pas bonne et aujourd'hui tout se met en place pour fatiguer la population. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui les gens sont enclins à quitter le pays.
Merci Jean-Baptiste.
Cette constitution qu'on impose à la population.
Merci Jean-Baptiste Satisso. Merci Jean-Baptiste Satisso. Isidore Color, 30 secondes.
Bon, qu'est-ce que faut dire? Mais le sondage est déjà là. Sur la dizaine ou bien de personnes qui ont appelé, vous allez faire le calcul. Tous, les statistiques, on va dire que bon, le Togo ne fait plus rêver les Togolais. Ça, ayons le courage et l'honnêteté de le dire pour que nos dirigeants puissent nous faire rêver et que la gouvernance change et que, comme le disait tantôt monsieur Sekou, que mais il y a un travail de fond qui se fait déjà au Burkina et nous sommes là à applaudir, à rester là brimbalant, à ne rien faire, à faire croire à la population que on travaille pour elle.
Non. Merci.
Nos dirigeants doivent changer de mandat. On doit changer de paradigme.
Merci. Sinon, merci Isidore Akolor. Merci Isidore Akolor pour votre participation à ce débat. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal La Tue Express. Merci Eric Parkoudou et Johnson d'être passé dans cette émission. Vous êtes directeur de publication du journal L'Union. Jean-Baptiste Atissot, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes directeur de publication du journal Écho du Monde et aussi du site d'informations corps diplomatique news.tg. Merci d'être passé. Monsieur Sekou Kadjangabalo, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes écrivain. Nous avons abordé votre pièce de théâtre La Folie de Salomé qui a fait l'objet de notre chronique ici au Club de la Presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui avez apporté aussi vos diverses contributions à travers vos écrits, vos réactions et également vos appels téléphoniques. Merci à vous. Merci à Thomas Etek aussi de la TV qui était à la mise en onde. Jérôme Akoutia était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Ils ont choisi Canal FM.